Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
Bienvenue dans votre magazine Droits et citoyenneté qui se penche aujourd'hui sur la protection des biens publics, cas de rails congolais. À ce jour, dans quel état se trouvent les rails et les chemins de fer de la RDC? Pourquoi certains ont carrément disparu et ceux qui tiennent encore, les trains n'y roulent plus? Quel devoir citoyen pour protéger ces biens publics? Quels sont les défis à relever dans ce secteur? Comment peut-on sauver les rails congolais? Des réponses à cette problématique tout à l'heure avec les responsables des chemins de fer congolais, les cheminots de la SNCC dans les Haut-Katanga et ceux de la SCTP ex-Onatra à Kinshasa. Cette émission est réalisée et présentée par Jeff Ngoyi Mulonda avec la participation de Denise Maéo sous la supervision de Jean-Marc Matwaki. Encore une fois, bienvenue dans votre émission Droits et citoyenneté qui s'intéresse à la protection des biens publics cas de rail congolais. Le rail, cette barre d'acier profil, deux fils parallèles de rail mis bout à bout formant une voie ferrée et reposant alors généralement sur des traverses pour conserver un écartant constant. Le tout sert à la fois de guide et de support de roulement pour les véhicules ferroviaires comme le train et le tramway. Il sert d'un système de transport conducteur électrique. Les rails peuvent aussi être utilisés pour la transmission des signaux tels que les circuits des voies. Le chemin de fer revêt d'une utilité capitale. La Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC, compte 3641 km de voies ferrées. C'est l'un des plus longs chemins de fer en Afrique. Mais ce chemin de fer connaît des actes de vandalisme et de destruction, ce qui met la SNCC en difficulté de remplir correctement sa mission d'assurer le transport des marchandises et des personnes. Quelles sont les actions et les stratégies mises en place pour protéger ce patrimoine public? Reportage de Denise Maéo.
La voie ferrée de la SNCC traverse aujourd'hui des agglomérations. Sur certains coins, des habitations ont poussé à moins de 25 mètres de la voie. Ailleurs, ce sont les activités commerciales qui s'y déroulent. C'est le cas du marché rail dans la commune de Kampemba à Lubumbashi. Des vendeurs et vendeuses étalent leurs marchandises des parts et d'autres de la voie ferrée. Chaque jour qui passe, des agents du bureau du marché traquent les vendeurs qui s'installent non loin du rail. Ils sont assistés de la police des voies de communication fluviale, lacustre et ferroviaire. C'est une lutte sans merci, déclare Jerry Mwenze, secrétaire du marché rail.
Avant tout, il y a une mesure que la SNCC nous a donnée. Vous avez donné une distance de 25 mètres. On continue toujours à pousser les gens. Même aujourd'hui, si vous passez, vous allez voir nos éléments toujours en train de pousser les gens pour qu'ils respectent les 25 mètres. C'est tout un problème. À votre dos, il peut encore rentrer, mais nous aussi, on cesse de les pousser toujours. Notre objectif, c'est protéger la voie ferrée. Le second, c'est protéger aussi les gens. Contre les accidents, il y a une police ferroviaire. On se complète parce que nous-mêmes, on ne saura pas.
Les vendeuses de la friperie semblent obéir à ces instructions. Elles ont construit leurs étalages à environ 20 mètres de la voie. Pour Madame Bibiche, si la voie ferrée n'est pas protégée, il n'y aura pas de train et donc pas d'approvisionnement. Et pendant que nous nous trouvions encore au marché rail, un train est arrivé. C'est à peine que les vendeurs s'éloignent de la voie ferrée. Ailleurs, dans la province du Haut-Katanga et dans la province du Lualaba, on observe des actes plus importants des vandalismes de la voie ferrée. Sur le tronçon Kipushi-Sakania, le rail a été enlevé et emporté. La voie ferrée n'existe plus. Sur l'axe Tenke-Kolwezi, des jeunes gens creusent sur le rail à la recherche des résidus des minéraux et c'est sans conséquence, déclare Victor Rumba, président de la délégation syndicale à la SNCC.
Oui, nous avons connu ces problèmes-là. Heureusement, grâce au passage du chef de l'État du côté de Kipushi, il avait constaté que la destruction était vraiment méchante et énorme. Là, nous sentons qu'il y a quand même une baisse de vitesse de ces côtés-là. Mais ce qui est important aussi, c'est de reconnaître que la destruction a été importante. Là, il y a une semaine, nous avons fait l'axe Lubumbashi-Kolwezi à partir de Tenke. Nous avons constaté que les creuseurs qui creusent illégalement les minéraux sur la voie ferrée est pratiquement malheureusement, ils sont en train de laisser les rails dans les vides. Ces gens, ils sont en train pratiquement de détruire le chemin de fer. C'est vraiment une méchanceté que l'on ne peut pas tolérer. C'est sur le tronçon Luambo-Tenke, Tenke-Kolwezi vers Lulu.
Autre destruction que connaît la SNCC ces derniers temps, c'est le vol des fils caténaires. Sur un total de 852 km de voies ferrées électrifiées, plus de 280 km de câbles ont été volés, indique le président de la délégation syndicale.
Aujourd'hui, sur 852 km de voies ferrées électrifiées, il y a déjà plus de 280 km de fils caténaires déjà emportés. Au-delà des Kolwezi, ces inciviques commencent même à scier les poteaux. Je me souviens en 2009, quand le chef de l'État a reçu la délégation syndicale de la SNCC, il nous a promis, après la réhabilitation, nous allons nous battre pour moderniser la SNCC. Mais je ne pense plus que cette modernisation sera possible aujourd'hui, parce que la voie ferrée électrique fait la fierté de cette nation. Aujourd'hui, ils sont en train de tout détruire. Nous, en tant que cheminots, on est impuissants.
Que faire pour protéger ce patrimoine public que propose la SNCC? On écoute Ilunga Lubaba, directeur d'exploitation SNCC Région Sud.
Au fait, d'une façon stratégique, la SNCC a pris ses responsabilités pour essayer de sécuriser, comme la SNEL également le fait actuellement. Nous avons pu mettre des éléments qui sécurisent cette voie-là, mais tel que nous le remarquons, ça ne fait que continuer malgré la présence de ces éléments de sécurisation de la ligne caténaire. Je vous informe que c'est sécurisé quand même et la SNCC a mis tous ses moyens financiers là-dessus de façon à ce qu'on ne puisse pas vraiment vandaliser les patrimoines de l'État. C'est un coût pour la SNCC.
Pour l'heure, plus de 200 km de voies ferrées ont été réhabilitées intégralement grâce au financement de la Banque mondiale. Lubumbashi, Denise Mayo, Radio Okapi.
Droits et citoyenneté se poursuit. Nous parlons de la protection des biens publics cas des rails congolais. Une Asbel Katangaise, selon le rail, milite pour la protection de ses patrimoines. Son président Romy Malobo nous fait ici l'état des lieux de ses biens et évoque les causes de sa destruction.
Les rails, quand vous passez, quand vous êtes venu de Kinshasa, vous avez vu quand même que nous sommes reliés à d'autres villes par les rails. Nous avons fait malheureusement un constat sur ce secteur aussi primordial pour la vie d'une grande population de la RDC. Nous sommes allés du concept ou de la réflexion de Henri Tanlaï-Moton qui disait, je crois en 1901, si je ne m'abuse, que sans les chemins de fer, le Congo ne valait pas un penny. Et nous, en tant que population congolaise, on est rentré dans la deuxième réflexion de Johnson qui lui a dit avant de demander au gouvernement ce que celui-ci va faire pour toi. Pose-toi la question de ce que toi tu fais pour le gouvernement, c'est-à-dire pour ton pays, ta nation. Et voilà, de ces deux réflexions, nous nous sommes mis à réfléchir sur un secteur qui collectivement avait été abandonné. C'est le secteur des transports par voie ferrée. Voilà un peu l'historique, comment nous sommes arrivés à mettre sur pied Sauvons le Rail, parce qu'on a constaté que effectivement ce secteur descendait aux enfers.
Sauvons le Rail sait qu'il y a un problème. Et quel est ce problème qui se pose dans le secteur ferroviaire?
À l'époque, on l'appelait colonne vertébrale de l'économie nationale. Et nous nous retrouvons qu'aujourd'hui, avec cet abandon collectif à tous les niveaux de ce secteur, la population congolaise ne sait plus se retrouver dans des besoins vitaux de première nécessité. Je ne parle pas ici seulement de la population qui se retrouve dans des grandes villes, mais je vois plutôt les fins fonds de la République, cette population-là, ces Congolais-là, qui se retrouveraient dans un point XY qui était desservi par les rails, ce qu'il est devenu aujourd'hui par rapport à l'absence ou à cette descente aux enfers de ce secteur. Donc, le vrai problème qu'il y a, c'est que ce secteur a été abandonné. Ce secteur a été négligé. Et ce secteur n'a pas l'accompagnement des institutions. Sur le plan législatif, par exemple, ce secteur n'a pas été accompagné par les lois. Et la dernière, je crois, l'ordonnance qui avait été signée, c'était en 1954. La première, c'était vers les années 1903. C'était d'ailleurs un décret du roi. Donc, depuis le 1903 à ce jour, trois ordonnances seulement ont été signées. Comment voulez-vous qu'un secteur aussi crucial pour l'économie de ces pays qui ne soit pas accompagné par une législation? Sur le plan réglementaire et normatif. Le secteur n'a pas été accompagné. Vous vous retrouverez qu'aujourd'hui, le secteur des chemins de fer, on bricole. Sur le plan scientifique, un secteur comme celui-ci, il n'y a aucune institution, à ce que je sache dans ce pays, qui soit universitaire ou au niveau secondaire professionnel, qui organise les enseignements liés au secteur ferroviaire. Les quelques centres qu'il y avait dans ce pays n'existaient plus. Et c'était des centres qui relevaient de la gestion de la SNCC, de la SNCC. Voilà que ce manque de raisonnement amène aujourd'hui des sérieuses difficultés aux techniciens qui sont par exemple, à la SNCC, pour parler de ça, parce que la SNCC en elle-même, elle a, je crois, 5033 kilomètres de chemin de fer dans ces pays. Donc, vous sentez quand même que c'est un espace très grand qui est couvert par les chemins de fer. En quittant Sakania, vous allez Kamina, Kindu, vous allez à Kalemi, Ilebo, vous quittez Matadi. Voilà. Tout ça, ça a été couvert par les chemins de fer. Et les Belges qui a conçu ces plans, ils savaient pourquoi les chemins de fer est passé là où il est passé.
Souvent, le rail parle d'une situation calamiteuse de nos rails et tente d'établir les responsabilités.
Premièrement, retenez que l'âge moyen dans ce secteur, c'est autour de 45 ans.
Après 45 ans, il faut renouveler.
Maintenant, il faut rajeunir. Parce que les rails, ce n'est pas un problème de bureau. Les rails, c'est un problème pragmatique. On doit être sur terrain. Parce que dans ce secteur, il y a trois éléments qui entrent en ligne de compte. Il y a les matériels, c'est-à-dire les locomotives et autres là, les drésines. Et il y a des matériels contracts, c'est-à-dire des wagons. Mais il y a aussi un troisième élément le plus important même, c'est les rails lui-même. C'est autour de ça que nous avons mis sur pied souvent les rails. L'état où ils se retrouvent aujourd'hui, il y a une inconscience très manifeste et du législateur et de l'exécutif et de la population elle-même qui est bénéficiaire. Alors, souvent les rails en tant qu'ASBL, c'est un vecteur dans un triangle et ce triangle est composé de trois catégories de la population. Donc, il y a au-dessus les décideurs, ce sont les membres du gouvernement, les deux chambres, les parlements provinciaux, il y a les gouvernements provinciaux d'un bout de l'autre coin du triangle, il y a maintenant les gestionnaires. Donc, l'ASBL a des choses à dire aux gestionnaires par rapport à la gestion de ce secteur. Et le dernier coin du triangle, c'est là qu'on trouve les bénéficiaires. L'ASBL aussi a des choses à dire aux bénéficiaires. Nous leur demandons tout simplement un esprit citoyen, un comportement citoyen, un civisme par rapport à ce secteur, par rapport aux rails. Aux gestionnaires, nous avons des choses à leur dire. C'est pourquoi nous avons toqué plusieurs fois à la porte de la SNCC et jusque là, nous n'avons jamais été reçus pour qu'on puisse, n'est-ce pas, apporter notre pierre de contribution. Ça ne servirait à rien d'acheter une locomotive à 18 millions de dollars pour que cette locomotive se retrouve dans un ravin après 5-6 mois. Ce que nous avons constaté maintenant, les efforts consentis par le gouvernement pour l'achat des 38 locomotives l'année passée, aujourd'hui, allez voir les statistiques. Ces locomotives, il y en a qui sont déjà dans des ravins et les millions de contribuables congolais sont partis.
Nous sommes toujours ensemble sur la fréquence de la paix. Droits et citoyenneté se poursuit. Nous parlons de la protection des biens publics qu'a des rails congolais. Le vice-président de l'ASBL Sauvons les rails, Momat Moulongoy, explique les devoirs civiques des bénéficiaires de la voie ferrée et l'apport de son ONG pour la sauvegarde de ses patrimoines publics.
Je crois que à ce point précis, il faut dire que la responsabilité incombe aux riverains et ceux des riverains qui sont encadrés par notre ASBL. C'est eux qui sont les premiers bénéficiaires et donc c'est à eux la protection de ceux qui leur apportent la survie. Vous avez dit, pas loin de Lubumbashi, pas seulement du côté Kasumbalesa, l'ASBL a fait une tournée, nous sommes allés à Kipushi, le constat il est le même. Mais dommage, c'est que ce sont certaines entreprises minières implantées dans le Haut-Katanga qui utilisent et qui prennent les morceaux de rails comme mitraille et ils les retravaillent pour faire d'autres produits à revendre. Et donc, ça nécessite une sensibilisation pour que la population riveraine comprenne qu'elle a la responsabilité, la charge de protéger les rails parce qu'à travers ces rails et que le train arrive, vous avez tout ce que vous pouvez. Moi, je voulais plutôt surtout insister sur le bénéfice que la population riveraine peut aujourd'hui avoir à travers les rails. Et ça, c'est clair, tout le monde le sait, qu'il y a des coins ici dans cette République, lorsque le train passe, lorsque le train arrive, c'est là que la pharmacie vient. Lorsque le train arrive, c'est là que vous avez les manufacturiers. Lorsque le train arrive, c'est là que vous avez la possibilité même de vous déplacer. Donc, quitter d'un coin à un autre, il faut attendre le train. Et donc, il n'y a pas moyen de laisser ce secteur mourir parce que c'est un secteur qui encadre et qui couvre plus de la moitié du territoire national. Si vous prenez uniquement les provinces de Mambré du Grand Katanga, toute la province du Haut-Lomami, toute la province de Tanganyika, y compris 80% de la province du Lualaba sont desservis par les secteurs ferroviaires, par les rails. Et donc, lorsqu'il n'y a pas de train qui passe à Kongolo, à Kabalo, à Nyunzu, à Kitanda, à Kabongo, ces populations s'émeurent. Ces populations restent dans une pauvreté sans précédent. Voilà pourquoi il faut que la population elle-même d'abord, en tant que bénéficiaire, puisse s'approprier cette responsabilité de protéger les rails. Nonobstant les dénonciations que l'ASBL ainsi que tous les autres partenaires peuvent faire, mais d'abord à la population elle-même.
Est-ce que votre ASBL s'y emploie à travers des campagnes de sensibilisation à cette éducation civique?
Bien sûr, parce que si on ne le fait pas, donc nous n'avons pas de raison d'être. Nous sommes une ASBL et une ASBL avait comme objectif sensibiliser la population à la protection aux droits civiques. Et nous le faisons régulièrement.
Quittons Lubumbashi et revenons maintenant à Kinshasa pour évoquer le même problème cette fois-ci avec les cheminots de la Société commerciale des transports et des ports SCTPX Onatra, où nous avons rencontré le président de la délégation syndicale qui déplore la disparition de la voie ferrée interurbaine.
La SCTP est victime de certains actes de vandalisme. Il y a des gens qui sont en train de prendre ces matériels ça et là. Donc nous déplorons ces actes. Ce n'est pas le vouloir de l'ONATRA ou de la SCTP, mais ce sont des gens. La SCTP est victime de ces actes-là.
De la part de qui?
De la part des passants. Des passants qui peut-être veulent faire certains travaux, bon, ils prennent comme ils veulent.
Ce ne sont pas les passants qui peuvent aller asphalter les rails quand même.
Oui, le problème c'est que pour le moment, la voie Matadi-Kine fonctionne. Mais les autres axes, par exemple d'ici Kitambo, ne fonctionnent pas à cause de certains problèmes que nous avons. Locomotive, le wagon. Bon là, maintenant la société s'organise pour acquérir certains wagons pour desservir encore ces voies-là. Mais pendant que la société s'organise, les uns et les autres passent pour récupérer rails et traverses. Si réellement il y a respect de la chose publique, nous avons des agents de l'ordre. Quand on voit quelqu'un voler, il faut l'interpeller. Mais c'est au finish où nous allons déplorer que nous voulons faire passer encore les trains et qu'il n'y a pas de éléments. C'est là où la SCTP va déplorer ses actes.
Qu'est-ce qui se passe au sein de votre entreprise?
Bon, sur la situation de notre entreprise, nous demandons à l'État propriétaire de nous venir en aide. Nous avons un problème de trésorerie. Les agents acquisent 11 mois, 12 mois, 13 mois d'arriéré. Que l'État nous aide, parce qu'à un certain moment aussi, la SCTP travaille pour l'État. Que l'État nous vienne en aide pour que nous puissions surmonter ces difficultés que nous avons. Le Premier ministre a donné instruction. Nous lui avons écrit. Nous attendons sa réaction.
En 2012, le gouvernement congolais s'était engagé à réhabiliter la voie ferrée à Kinshasa afin de relancer le train interurbain dans l'ouest pour rendre plus fluide le transport en commun. Jusqu'à ce jour, rien n'est fait. Le directeur des chemins de fer interurbains de la SCTP, Martin Lukusa, dépeint le tableau sombre de l'état des rails de l'ex-ONATRA à Kinshasa.
Ce monde de transport est toujours déficitaire et il demande toujours ce qu'on appelle des subventions de la part soit de l'État, soit des partenaires. Mais il s'est fait que dans notre pays, avec les difficultés que vous connaissez ici, ce monde de transport connaît des difficultés par rapport à ses compléments financiers qui est important. Vous êtes sans ignorer, entre parenthèses, que l'État a un devoir de pouvoir mettre à disposition de la population le transport à moindre coût, parce que c'est un devoir d'organiser la mobilité de ses citoyens. Les privés, ils ont pour devoir de faire des bénéfices, et comme tous les citoyens ne peuvent pas accéder au transport mis à la disposition par les privés, l'État a le devoir de combler cette partie de la population qui n'est pas capable de vivre avec plus de $ par jour. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est fait. Et cela entraîne, ipso facto, la difficulté des trains interurbains à pouvoir soit renouveler le matériel, payer du carburant et d'autres charges qui sont des charges fixe. Et au même moment, comme les trains ne circulent pas sur ces tronçons-là, qu'est-ce qu'il y a comme difficulté que nous rencontrons? La nature ayant peur du vide, les gens viennent construire sous les rails. Il y en a même qui volent des morceaux des rails pour aller les vendre sur le marché, puisque la situation est on ne peut plus catastrophique sur le plan social. Alors, cela est dû aussi principalement à la difficulté de l'aménagement du territoire par l'autorité publique. Parce que quand on aménage le territoire, il y a des lieux qui sont réservés pour les routes, il y a des lieux qui sont réservés pour les rails, qui est un mode des transports par excellence des masses. Et puisqu'il n'y a pas de subventions qui suivent, puisqu'il n'y a pas de partenaires qui viennent compte tenu des situations que nous avons entre autres, les situations politiques et d'autres situations, ça crée des sacrées difficultés.
Est-ce que vous portez à la connaissance des décideurs, du gouvernement, toutes ces difficultés afin d'être relevées?
Effectivement, beaucoup d'études ont eu lieu ici, même des débats avec les ministères des transports précédents du gouvernement Matata au sommet. Il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de partenaires étrangers qui sont venus pour participer au capital des trains interurbains. Mais comme vous savez, ici, on fait toujours les études. Et après, changement de gouvernement, il y a automatiquement un changement de vision. Et tout ça, ça fait que retarder l'évolution.
Avec d'impuissance à la SCTP, dont Martin Lukusa pense qu'il faut carrément recourir au privé pour sauver ce secteur.
Nous pensons qu'il est grand temps qu'on puisse voir avec avec les trains urbains, comme on a vu ailleurs, qu'il y ait la participation au capital des partenaires privés. Je pense que ça pourra résoudre la difficulté.
Ça ressemble à un aveu d'échec pour la SCPP. Il faut recourir à un capital privé pour relever le défi. Seule la SCPT ne paie rien.
Mais effectivement, nous ne devons pas avoir honte à le dire. Ça fait plus de 20 ans que nous n'avons fait que bouffer le capital. Tous les matériels que nous avons, regardez les rails, ça fait combien d'années? Ça fait plus de 80 ans qu'on n'a pas renouvelé les rails ici. Les matériels de traction, ça fait plus de 10 ans, 15 ans qu'on n'en a pas. Les derniers qu'on a eu, c'était un don belge. Les deux locomotives que vous voyez circuler et les 13 voitures que vous voyez circuler sous la voie interurbaine, ce sont des dons belges. Nous ne devons pas avoir honte de les dire que si nous voulons sauver ce mode de transport, puisque l'État propriétaire n'a plus de moyens pour pouvoir financer et subventionner ce mode de transport, et si nous voulons les voir continuer à aider la population, il faut aller vers des capitaux frais. Et les capitaux frais, au jour d'aujourd'hui, on ne doit pas avoir honte, il faut les trouver chez les privés.
Combien de kilomètres qui ne sont plus exploités dans la ville de Kinshasa?
Dans la ville de Kinshasa, en principe, nous avons 91,7 kilomètres. Donc, ça incorpore la voie aéro-gare centrale, la voie Kinsuka-gare centrale, en passant par Kitambo. Et vous avez la voie Kasangulu, qui va de la gare centrale, passant par Matete, Kimwenza et Kasangulu. Et l'ensemble, ça te fait 91 kilomètres, qu'il faut non seulement réhabiliter, mais doter du matériel de transport.
En attendant le capital privé, il faut oublier le train interurbain à Kinshasa.
Non, mais nous sommes en train de faire un travail d'énergie, donc on fournit des efforts supra-humains pour pouvoir faire souffler ne fût-ce que les minimums qu'il y a là. Vous avez sur la ligne Kin-Est, Gare Centrale et Kasangulu qui continue à circuler, sauf que depuis le mois de mars, nous avons des difficultés d'ordre technique. Et là, nous sommes en train de travailler avec la direction générale sérieusement pour que d'ici une semaine ou deux, que nous puissions remettre sur les rails ces trains-là. Mais pour la voie Kitambo, les gouvernements avaient mis un peu de moyens, donc un 1/30 de ce qui seront demandés pour pouvoir réhabiliter cette voie-là. Et ça s'est arrêté à mi-chemin. Ça demande un effort, beaucoup de moyens. Et là, déjà, nous qui circulons avec le peu que nous avons sur les rails, vous avez un ticket à 500 francs congolais. Ça veut dire quand vous mettez 1000 litres de carburant, vous revenez avec un déficit de 1 000 $. Il faut les trouver ailleurs pour compléter encore et continuer à transporter les citoyens. C'est un devoir. Mais c'est un devoir qui est fait au prix des sang des gens.
Est-ce que vous sentez le manque à gagner?
Le manque à gagner est énorme. D'abord, il est d'ordre environnemental. Quand les trains circulent sur ces voies-là, c'est difficile qu'une personne vienne mettre sa case à côté. Et si vous ne circulez pas, la nature a horreur du vide. Tout de suite, vous voyez des hélicos qui naissent tout près des gares. Il y a des marchés même qui naissent sur les rails. Aller à Kitambo, passer par l'avenue du 24 novembre, vous allez voir combien de gens sont sous les rails, combien de maisons poussent sur les rails. C'est puisque il n'y a pas d'exploitation. Les gens se disent, comme vous avez dit au début de votre émission, qu'il y a abandon de la SCTP de la voie. Non, loin de là, mais ce sont des contraintes d'ordre financier qui font que nous ne puissions pas y aller. Mais quand nous n'allons pas, les déficits est réel. Puisque pour construire 1 km de voie ferrée, tu es autour de 2 millions, 3 millions $. Et les laisser être détruits par la population, c'est perdre non seulement l'argent, mais vous perdez aussi l'infrastructure.
Vous sensibilisez aussi la population au respect de ces biens qui est public.
Oui, nous le faisons à notre manière, mais avec vous, les médias, je pense que ça irait encore beaucoup plus vite et on va atteindre le maximum de personnes pour pouvoir leur faire comprendre que c'est dans leur propre intérêt que ces infrastructures ferroviaires existent. Si nous arrivons à les transporter, ça sera d'abord les prix les plus bas, c'est les transports qui coûtent les moins chers et qui transportent les plus de personnes. Du coup, si quand on faisait la voie Kinsuka gare centrale, vous avez, quand les trains passent, il a autour de 2000 à 2500 personnes du coup. Donc ça absorbe tout ce que vous avez comme embouteillage aujourd'hui sur la voie. C'est puisque ce mode de transport de masse est en train de disparaître. Qu'est-ce que ça fait? Vous avez l'obligation d'avoir plus de véhicules sur la voie. Vous avez l'obligation d'avoir plus de gens dans les voitures. Et il y a une pollution qui ne dit pas son nom. Parce que, méfiez-vous, les transports routiers, ils coûtent trop cher en termes de pollution, en termes de coûts, en termes d'accidents, en termes d'embouteillage. Donc les gens n'ont pas, mais ne savent pas maîtriser leurs horaires puisqu'il y a embouteillage. Tout ça, ce sont les phénomènes qui font que dans d'autres pays, on encourage les transports de masse comme les trains interurbains.
Parmi vos difficultés, vous évoquez le manque de locomotives. Mais nous avons visité la gare centrale, nous voyons beaucoup de locomotives qui sont là, inutilisées. Il n'y a pas moyen de les remettre en état, de les réparer. Il n'y a pas une politique de la maintenance au niveau de la SCTP.
Non, effectivement, il y a la maintenance. Mais comme vous savez, les machines, les voitures, les locomotives, comme les hommes, nous avons un délai de vie. Donc, quand une machine qui doit faire 30 ans a déjà atteint 60 ans, vous ne pouvez pas continuer à la mettre sous l'exploitation. Soit, il y a plusieurs choses qui arrivent après ça. Donc, l'entretien coûte plus cher qu'une nouvelle acquisition. Ou, ce sont des vieux trucs qui vont faire que vous avez trop d'accidents sur la voie. Donc, on a un devoir, d'abord, de la part de la loi. La loi dit, quand un bien est amorti, il faut les déclasser. Donc, ces choses-là sont des choses déclassées puisqu'ils ont dépassé non seulement l'amortissement comptable, il y a aussi l'amortissement économique qui a été entamé depuis très longtemps. Nous devons être sérieux, renouveler ces matériels, avoir des matériels qui répondent aux normes de sécurité.
Droits et citoyenneté se poursuivent. Nous nous intéressons à la protection des rails congolais. Mais quels en sont les raisons raisons de conception et l'historique. Encore une fois, Rumi Malobo de Las Belles Sauvons le Rail explique.
En fait, les rails remontent de la colonisation, c'est-à-dire vers 1901 qu'on a commencé la construction, la pose du premier rail. Vous savez pourquoi les Belges qui étaient venus au Congo, ils avaient un problème d'évacuation des minerais du sud vers la Belgique. Ils ne devaient pas sortir par Sakania parce que de l'autre côté, il y avait les Anglais, il y avait l'Afrique du Sud avec la partie de consorts. Ils pouvaient s'imaginer un tracé qui pouvait leur permettre d'acheminer les minerais du Katanga, donc du sud du Congo à l'époque, vers la Belgique. Et le point qui a été crucialement d'ailleurs choisi, c'était le port d'Anvers. C'est comme ça qu'ils vont commencer à concevoir ces chemins de fer par les tracés que nous avons aujourd'hui pour atteindre Ilebo. Et d'Ilebo, on devait jeter un pont sur la rivière Kasai, se retrouver de l'autre côté et parcourir les Bandundu pour atteindre Kinshasa. Alors, à défaut de ce pont qui n'a pas été jeté sur la rivière Kasai, donc les minerais pouvaient arriver à Ilebo et d'Ilebo, on mettait dans des bateaux pour que ça arrive à Kinshasa et de Kinshasa, ça reprenait la voie ferrée jusqu'à Matadi et là, on a très facilement le port d'Anvers. Ça, c'est par rapport au schéma primitif des chemins de fer au Congo.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
Nous parlons de la protection des biens publics cas des rails congolais. Le directeur des chemins de fer interurbains de la SCTP formule quelques recommandations.
De prime abord, l'État congolais doit avoir une politique d'aménagement des territoires qui soit connue et respectée de tous. Si vous voyez les gens des voiries en train de mettre des goudrons sur les rails, c'est parce qu'ils sont peut-être ignorants de l'importance du rail dans la ville de Kinshasa. Mais si l'État propriétaire a mis à la disposition de tous ces gens-là une documentation sur l'aménagement des territoires, je pense que ça n'arriverait pas. En ce qui concerne les citoyens congolais, essayons de protéger les rails, essayons de protéger les voitures, les locomotives qui circulent sur la voie, puisque ça a une importance capitale pour le maximum des populations qui vivent avec le moins d'un dollar par jour, de pouvoir avoir une mobilité aisée et à moindre coût. C'est ainsi que nous disons que nous conscientisons nos citoyens, nos frères et sœurs à protéger les biens communs qui est les rails.
Nous allons conclure cette émission avec le président de Sauvons le Rail, Rumi Malobo, sur quelques perspectives d'avenir dans le secteur.
Dans les jours à venir, nous organisons quelques journées de réflexion sur le secteur chemin de fer, avec un thème qui va aller dans le sens de l'émergence de la RDC vers les années 2030. Mais la participation du secteur, est-ce que le chemin de fer à l'horizon 2030 peut contribuer à l'émergence de la RDC? Alors, il y a des professeurs d'université qui vont intervenir pour qu'ensemble, qu'on fasse un diagnostic plus profond et que à l'issue de ce diagnostic, qu'on propose une thérapeutique de choc. Vous vous en doutez? Je vais vous dire tout de suite là que les locomotives qu'on acheter. Par manque d'une technologie appropriée chez nous, nous sommes obligés d'acheter de l'eau pour mettre dans les radiateurs de ces locomotives. Nous achetons de l'eau chez Caterpillar. Est-ce que cet état de choses, c'est quoi? C'est-à-dire que le scientifique n'a pas accompagné le secteur. Nous avons gardé les Chinois qui nous ont fourni ces locomotives. Ce sont eux qui sont encore des conducteurs. Est-ce que vous allez vous comprendre? Donc le secteur de l'enseignement a failli, a abandonné, n'a pas accompagné. Le secteur législatif, si aujourd'hui par exemple vous trouvez un morceau de rail sur un chariot, on dit on va mettre un poteau pour le transport d'énergie. Quelle loi le défend? La police va arrêter sur base de quel article, de quelle constitution? Donc il y a faiblesse de la législation par rapport à ce secteur. Donc nous allons continuer à travailler, nous allons continuer à insister, comme on le dit quelque part dans la Bible, pour l'amour d'Israël, je ne mettrai pas l'asbène, etc., pas pour l'amour de la République.
Tout au long de cette émission, nous avons fait l'état des lieux de nos rails, l'historique, avec nos interlocuteurs. Nous avons également épingler les défis à relever dans le secteur. Nous avons tenté d'établir les responsabilités et proposer des pistes de solutions sous forme de recommandations. Ainsi s'achève Droits et Citoyenneté qui s'est intéressé à la protection des biens publics cas des rails congolais. Merci à Denise Maéo qui a contribué à sa réalisation. Bonne suite de nos programmes.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.